aujourd'hui ceux qui ont réellement développé dans leurs écrits des tendances politiques, religieuses, amorales, pas raciales j'espère, mais tendancieuses ou négatives. Ensuite, je vais vous raconter une autre petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Je reviens d'Allemagne où je fais une petite intervention. Et puis j'avais publié il y a quelque temps dans Die Zeit un article. On m'avait demandé de parler de mes rapports avec l'Allemagne. Et donc j'avais raconté mes souvenirs d'enfance sur le fait que j'habitais Bordeaux et que donc un beau matin, les soldats allemands étaient rentrés de façon très brutale dans la maison que j'habitais, etc. etc. Et ce texte a fait, je l'ai appris plus tard, un très grand scandale en Allemagne parce que j'avais l'air d'attaquer l'Allemagne. Et là, j'ai vu que j'aurais tenu un propos, non seulement à tendance tendancieuse, mais un propos idéologique, un propos politique, alors que je racontais simplement un souvenir d'enfance. Ce qui fait surgir tout de suite la question de savoir si un écrivain aujourd'hui a le droit ou non de raconter un souvenir d'enfance s'il n'est pas conforme, par exemple, à l'avenir de l'Europe, à la réconciliation franco-allemande, et finalement aux publicitaires qui nous vend cette marchandise. Tout ceci pour dire que je crois qu'un écrivain... Qu'est-ce que c'est que sa génétique? Bien sûr, c'est les différents états d'un manuscrit qui lui sert à préciser ses fantasmes, ses fossés pleins d'herbes ou d'eau, d'herbes en effet, et que tout ça est très important, et qu'on n'y arrive pas du premier coup, et que, ou sauf certains, parce que l'amplification du travail en littérature est aussi une idéologie à laquelle on peut être, par rapport à laquelle on peut être critique. La critique génétique des lettres de Madame de Sévigné ne s'impose pas. Sauf à se demander quel est le drôle de corps qu'est Madame de Sévigné en écrivant du premier coup et sans aucune rature ses textes. La critique génétique de Saint-Simon ne s'impose pas. Je ne pense pas, enfin, sauf à découvrir en effet que certaines variantes, mais pas dans le tracé. Et j'irais même jusqu'à dire que plus on est dans un état d'historique où la littérature manque à sa légitimité profonde, à une crise de légitimité qui a des tas de raisons d'être, plus on peut avoir ce questionnement sur le fait que c'est tellement extraordinaire qu'un texte est fini par surgir. Ça ne concerne pas, ou peu à mon avis, l'époque classique où il faut improviser parfois très vite, où Molière écrit une pièce en 8 jours, etc., etc. On peut toujours trouver des variantes, des corrections importantes. Enfin, je crois que c'est un problème, en effet, moderne. Mais par moderne, on entendra à ce moment-là quelque chose qui touche de plein fouet, en effet, le 19e siècle, une partie du 20e siècle. On peut alors, à ce moment-là, se demander si cette période n'est pas close. Question légitime. En tout cas, la génétique d'un écrivain, je crois que c'est... D'abord, c'est d'imposer sa biographie, en effet. Problème très, très important. Comment imposer sa biographie? C'est le seul problème. Tout le monde vous l'interdit parce qu'une biographie est à tendance tendancieuse. Je dirais qu'il y a d'abord... Il faut franchir tout ça. D'abord, quoi? Et au fond, je parle de ce que j'ai écrit au cours du temps. D'abord, vous avez un récit familial qui est en général totalement falsifié. Mais nous ne sommes pas, même si la psychanalyse est dans un état de dégénérescence aiguë, nous avons lu Freud, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne l'avions pas lu. La famille ment. Et puis après, l'école ment. L'université ment. La politique ment. L'histoire est falsifiée. La famille falsifie, l'école falsifie. Elle dit des vérités, mais elle est... Voilà. Ça ne peut pas convenir à un écrivain. La religion ment. Tout ment. Je suis frappé du nombre de gens que je rencontre qui désormais sont de moins en moins persuadés que la société est mensongère. Je dirais même que ça se raréfie à vue d'œil. Or, un écrivain qui ne penserait pas que la société est mensongère de part en part, je ne sais pas trop pourquoi il écrirait. Donc, mensonge sur l'enfant, sur les origines, mensonge sur le savoir. Et c'est là que l'université peut nous apprendre des choses, mais aussi en les présentant d'une façon biaisée, mensongère. Et l'histoire aussi est mentie. Donc la généalogie elle-même de l'écrivain est mensongère, qu'elle soit familiale, historique, sociale. Et tous ces mensonges finissent par déboucher dans ce mensonge quasiment universel d'aujourd'hui, qui est très bien médiatisé partout et que j'ai essayé de définir par le maître publicitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire exister un sujet biographique qui essaye d'écrire la vérité dans ce mensonge? Voilà, à mon avis, le problème principal.
Justement, à propos de ce problème principal, est-ce que vous pourriez dire comment vous voyez a posteriori et en plein dedans, ce que tout le monde considère en général comme les deux parties de votre œuvre, qui sont en tout cas deux façons différentes, c'est-à-dire jusqu'à Paradis et depuis Femme, c'est-à-dire en gros la rupture apparente apparaissant vers 83, et aussi c'est le moment où tel quel cesse de paraître pour devenir l'infini et pour être différent. Est-ce que vous pourriez essayer de reparcourir ces deux moments pour dire comment vous avez tenté à ces moments différents d'imposer votre biographie par le texte, parce que la stratégie, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, est assez différente. Dans un cas, d'ailleurs, la biographie était en apparence absente. D'une certaine façon, elle intervient directement au moment de H, au moment du début de H, avec la genèse du nom, du pseudonyme. Enfin, bon, mais je veux dire, avant H, en un certain sens, enfin, si j'accepte le défi et la solitude, enfin, les apparences sont contre la biographie et pour l'engendrement du texte et le travail du texte exposé dans le texte lui-même. Et puis ensuite, au contraire, les apparences sont massivement et de façon justement publicitaire pour la biographie, avec probablement quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Alors, à partir de Femmes. Donc, est-ce que vous pourriez vous... revenir sur la façon dont...
À mon avis, c'est assez simple. Il y a toute une phase de... très négative, comme dirait tout à l'heure, très négative, qui consiste à refuser le sujet qui pourrait raconter trop rapidement sa réalité. Il faut d'abord que ce sujet soit construit, qu'il ait sa logique. Donc c'est un problème de génétique, construction de ce sujet qui peut-être un jour pourra raconter. Et pour l'instant, un livre comme Drame l'expose, je crois. Et puis, ce sujet n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Mais pour des raisons, il n'est pas là. Il a lieu, il faut qu'il naisse quasiment au forceps, avec beaucoup de violence et de résistance à ne pas dire des choses trop claires ou trop réalistes. Ben, il n'est pas là, ce sujet, tout simplement pour des raisons historiques. Je m'excuse d'insister beaucoup sur l'histoire ce soir, mais on va partir de 1940, hein, et puis on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Entre 1940 et 1944, s'est produit un traumatisme extrêmement violent dont tout le monde parle encore. Je dirais qu'il y en a trois traumatismes depuis 1940, pour un écrivain français. 40-44, que faisiez-vous? Vous petits, que faisaient vos parents, sinon vos parents, vos grands-parents, et tout ça. La situation est toute différente que Flaubert par rapport à la Commune, Proust par rapport à l'affaire Dreyfus. C'est autre chose. Et je m'étonne beaucoup, c'est pour ça que j'ai raconté l'anecdote de Die Zeit, je m'étonne beaucoup qu'on trouve dans si peu d'écrits, d'écrivains contemporains, une mise au clair nette de la situation du sujet pendant cette époque. Où est-il? Que pense-t-il? Que ressent-il? Qu'a-t-il vu? Quelles sont ses perceptions? L'autre placard me paraît être évidemment 58-62, c'est la guerre d'Algérie, autre traumatisme historique. Et je suis encore surpris, on pourrait évoquer comment ça se représente dans la littérature. Voilà de la génétique historique aussi. Et enfin, le troisième placard, Ben, c'est autour de 68 et 72. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, sur lesquelles il est beaucoup menti? Voilà les trois placards. 40, 44, 58, 62, 68, 72. Et puis, depuis 10 ans, nous vivons, bien entendu, une époque merveilleuse qui ne cesse de s'amplifier, d'euphorie démocratique planétaire, dont j'ai dit que le maître était le publicitaire. Eh bien, je pourrais faire correspondre exactement chacun de mes livres à une interrogation précise sur ces trois données, soit en code, parce que le récit n'est pas possible, c'est-à-dire il y aura des manuscrits, ils sont susceptibles d'être étudiés par la critique génétique, de Paradis, par exemple, refait, mais enfin, assez continu. Il y a là quelque chose qui ne peut pas se dire autrement que par l'irruption d'une forme extrêmement rapide, non ponctuée. Voilà. Et puis, il y a petit à petit la possibilité de raconter. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on peut appeler en clair ou en figuration de ce qui a surmonté ce traumatisme historique. Et à ce moment-là, c'est un certain nombre de livres depuis femmes qui portent en eux la question d'une biographie à ce moment-là pleinement assumée et libre, qui s'écrit presque en direct, dans une sorte de savoir. Parce que si l'on a retourné ce savoir caché, ce savoir tabou, ce savoir interdit du sujet, ce savoir déliré de ces trois placards-là, eh bien, on arrive à la raison complexe d'écriture. Par conséquent, il n'y a aucune contradiction. C'est un cheminement continu pour surmonter une névrose historique. Qui, je pense, n'a pas d'exemple dans le passé.
C'est ce que je me demandais, parce que vous parliez de trois ruptures.
C'est pour simplifier.
Pour Flaubert, oui, il y avait 48, vous avez cité que la Commune a fait
le problème de 48. Je les crois tout à fait.
48, la Commune, Dreyfus, oui. Mais 40, 44. Oui, 58, 72, ce n'est pas la même chose.
Oui, en même temps, une vie comme celle de Flaubert, elle est traversée autrement, naturellement. C'est autrement, mais elle est traversée par trois grandes ruptures. 1830, quand il est tout petit, et il commence à écrire, vraiment à ce moment-là, première lettre, il a 9 ans. 1848, terrible, enfin véritablement, 200 000 morts à Paris, et puis 70, l'invasion, la Commune. Je crois que c'est effectivement, et ça correspond à des vraies fractures, voilà. Hein, la névrose historique, elle est là aussi, et c'est vrai qu'il s'agit de génétique historique qu'on ne peut pas du tout mettre entre parenthèses. C'est complètement essentiel dans les grandes phases d'une œuvre. Mais j'avais deux, trois choses à dire l'ensemble de votre propos. D'abord sur le vertige, sur la question des disquettes de l'écriture d'aujourd'hui. C'est vrai, je crois que c'est totalement vrai. Au fond, les généticiens du texte, ils sont un peu comme des ethnologues, quoi. On a commencé à s'intéresser aux Indiens quand on les avait à peu près tous fait crever, et on s'intéresse aux manuscrits au moment où ils sont en train de mourir. C'est vrai. Alors, je ne suis peut-être pas aussi pessimiste quand même que vous sur l'avenir des manuscrits. D'abord parce que je crois, mais là c'est un acte de foi, c'est pas du tout une preuve scientifique. Je crois que l'écriture littéraire, peut-être qu'elle va se réduire, comme vous le dites, terriblement, mais elle ne disparaîtra pas. Et que cette écriture littéraire, elle gardera quelque chose de manuel. J'imagine mal qu'un écrivain n'ait pas son petit carnet, alors peut-être un petit carnet électronique, mais il écrira vraisemblablement dessus toujours. Et ce sera peut-être trois pelés attendus, une réserve d'Indiens métropolitains. Bon, mais enfin, on est de ce côté-là ou on est de l'autre. Hein. D'autre part, ils finiront malgré tout, s'ils font des livres, par vraisemblablement les taper ou les faire taper sur des ordinateurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont menacés par le virus. Michel-Ange, moi j'ai pas été atteint dans mon ordinateur par Michel-Ange, mais j'ai été atteint par un virus d'Égypte, un virus qui venait du Caire. On m'avait envoyé des, les logiciels intéressants du Caire. Prof, j'allume le matin.
Quand vous travailliez sur le voyage en Égypte de Flaubert.
Exactement, oui, oui.
Les hiéroglyphes.
Un beau matin, j'allume mon Macintosh et prof, il se met à faire le bruit d'un chat qui est très en colère et puis il m'affiche une bombe et c'était terminé. Bon, j'ai réussi à le réparer, mais enfin, j'étais assez inquiet, effectivement. Non, il y a ces risques qui sont tout à fait sérieux. Je crois quand même qu'on arrivera à s'en garantir. Les supports matériels ont rien de rassurant. C'est vrai qu'ils peuvent vraisemblablement se fragiliser très vite. En revanche, il y a une chose qui est une très grande première, une sorte de scoop quand même dans l'histoire de la culture. C'est l'invention, il y a 3 ans, d'un code pour le langage écrit, pas pour les graphismes, pas pour les images, mais pour le langage écrit, d'un code qui est éternel, qui est un code de transcription de saisie. Il ne s'agit pas là des supports, hein, mais ça veut dire qu'il sera toujours auto-transcodable dans un nouveau code, qui n'aura pas besoin d'être ressaisi pour s'adapter au nouveau langage. Et c'est véritablement un tournant, hein, je crois, dans l'histoire du patrimoine écrit, à condition du moins que les dérives dont parlait Solers ne deviennent pas fatales à la littérature, naturellement. Alors, pour ce qui est de l'ordinateur qui sert à l'écrivain, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je ne suis pas écrivain, mais je le pratique pour écrire, et j'imagine que c'est comme ça que ça se passe pour quelqu'un qui écrit de la fiction. Ce qui disparaît, c'est une chose qui intéresse beaucoup le généticien, c'est la correction immédiate. C'est-à-dire le fait que, bon, cet adjectif-là, ben non, on va en mettre un autre. Mais il y avait eu celui-là avant. Et pour nous, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on raisonne, en essayant de comprendre pourquoi il y a eu justement rejet du premier et choix du second. En général, c'est encore plus compliqué que ça. Il y en a 10. Bon.
Ben, reluisant.
Voilà. Bon.
Château brillant.
Eh ben oui. Alors ça peut disparaître tout à fait. Je pense que si le métier d'écrivain reste un métier, vraisemblablement, on est en train d'en douter parce qu'on veut tous se transformer en publiciste, apparemment. Si le métier d'écrivain reste le métier d'écrivain, il y a bien des inventeurs de logiciels qui se diront, au fond, ces gens-là, ça les intéresserait de garder ce qu'ils ont écrit entre les lignes, ce qui raturait autrefois. Et moi, je ne suis pas loin de penser qu'on verra apparaître dans pas très longtemps sur des postes de micro-ordinateurs un peu puissants, des logiciels qui permettront à l'écrivain de garder chacune des versions pour pouvoir y revenir, parce qu'il est vrai que quand on écrit...
Les versions, on peut déjà. Je veux dire, ce qui évidemment disparaît, c'est la rature instantanée.
Des versions d'écriture immédiate. Hein, je veux dire,
versions, oui.
Alors, c'est assez compliqué à imaginer, mais c'est pas totalement impensable. Il est vrai que c'est un instrument essentiel hein, pour travailler. On n'arrivera pas à remplacer pour le moment, et à mon avis, c'est pour ça que l'écrivain... Le vrai continuera à écrire avec du papier pendant encore assez longtemps. On ne peut pas remplacer la table, le bureau qui fait qu'on a sous les yeux, qu'un écrivain a sous les yeux une dizaine de folios écrits et qu'il peut jouer, je veux dire, dans sa tête à un niveau spatial aussi, en même temps que temporel dans son écriture. Ça, il faudra des écrans gigantesques pour simuler la même chose et au fond, on voit mal comment ça ne serait pas beaucoup plus simple de continuer avec du papier. Tant qu'on aura des forêts. Mais l'idée d'un logiciel qui soit capable de garder les traces de chacun des gestes d'écriture, moi, je ne suis pas sûr que ça soit impossible. Ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est ce qu'il y avait en sous-entendu dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que la machine informatique probablement agit beaucoup plus sournoisement sur le style en condamnant par exemple, par le rétrécissement de la page, qui n'est même plus une page, qui est un fragment de page, à quelque chose qui se rapproche terriblement du slogan publicitaire. Et là, on a effectivement cette menace, ce risque. Mais là encore, les deux anecdotes que vous avez données étaient formidables, parce qu'elles résument, je crois, parfaitement cette pression, hein, qui est celle du cimetière, de la littérature, et puis du reste, qui traverse vos livres, et dont on sent bien, et de plus en plus fort, la menace. Mais il faut remarquer que ces deux anecdotes portaient sur la publicité, le journalisme. Mais ça n'empêche pas vos livres d'avoir du succès. Et je ne crois pas qu'on puisse faire trop de pessimisme sur la réception de la littérature. Il me semble qu'on n'en est pas encore là. Mais les signes sont effectivement menaçants. Alors vous disiez aussi, On n'écrit pas pour faire une œuvre aujourd'hui. D'abord, je ne suis pas sûr par exemple, ce que vous faites ne soit pas de cet ordre-là, que les grandes fractures dont vous parliez ne représentent pas précisément les phases d'une œuvre ou les phases de trois œuvres. Faisant système, hein, et est-ce que cette édification du moi biographique à travers l'écriture n'est pas précisément monumentale? Moi, je le croirais volontiers. Et alors, je dirais qu'à ce moment-là, peut-être qu'au fond, l'écrivain d'aujourd'hui n'est pas dans une situation tellement différente de l'écrivain, du moins, de la modernité, celui depuis la fin du XVIIIe qui joue sa vie, quoi, hein, en écrivant, qui, depuis qu'on a inventé la notion d'originalité, la notion de travail intellectuel, de risque de l'individu dans la chose écrite, se trouve toujours être quelqu'un qui peut-être ne n'écrit pas pour faire une œuvre, mais qui écrit pour vivre.
Pour faire une œuvre, ça veut dire que...
Pour le posthume, oui, ça évidemment.
D'abord. Ensuite, pour revenir à la question contre Sainte-Beuve, la fameuse formulation de Proust, eh bien, je pense qu'il faut la renverser. Car... au moment où Proust écrit cela, en effet, ce qu'on pourrait appeler la surveillance des institutionnels, policières, comme toujours dans les sociétés, et Proust n'arrête pas de s'en plaindre, et toute la fin de sa vie, c'est pour montrer qu'il ne faut pas parler de Flaubert comme ça, parce qu'il faut observer la façon dont il utilise l'imparfait. Il ne faut pas parler de Baudelaire avec ce mépris condescendant et paternaliste, mais il faut montrer comment il a touché un problème fondamental pour lui, Proust, au moment où il va publier Sodome et Gomorre, qui est celui, par exemple, des pièces condamnées, des lesbiennes. Donc, stratégie de Proust, attention. Le moi apparent que vous avez sous les yeux, tout le monde pourrait en témoigner, c'est le mondain, c'est peut-être le chroniqueur d'une certaine époque, etc. Attention, j'annonce quelque chose qui est non seulement une révolution formelle, mais quelque chose qui va au plus profond de la psychologie sexuelle telle que Baudelaire l'a montré, ou au plus profond d'une certaine métapsychologie grammaticale telle que Flaubert l'a initiée, etc. Et de proche en proche, qu'est-ce que veut dire Proust ? C'est qu'il doit être reconnu, lui Proust, encore vivant, comme un classique, c'est-à-dire comme l'équivalent de Saint-Simon, Racine, etc. Donc attention, le moi, le vrai moi, n'est pas celui que vous croyez, que vous croyez voir, que vous fréquentez. Alors, j'ai l'impression que c'est différent aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que je disais dans mes anecdotes, c'est que... la revendication de l'écrivain serait exactement l'inverse. Il devrait, au contraire, tout le temps insister sur son moi réel, sur sa façon de vivre concrète, sur le fait que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il vit. Qu'il ne faut pas prendre ça du tout pour des fantasmes, des imaginations qu'il se fait, des constructions imaginaires qu'il propose, mais bel et bien comme la transcription directe de sa vie, de son expérience, etc. La censure, en quelque sorte, se serait retournée. La société n'a plus rien à redire aux transgressions éventuelles, etc. Mais elle dénierait en quelque sorte à l'écrivain sa biographie concrète. Il n'aurait pas le droit d'être ce moi réel qui vit certaines choses et qui n'a aucune raison de penser qu'il en vit d'autres, puisque c'est celle qu'il vit qui l'intéresse. Voilà en tout cas ce que moi je ressens très profondément tout le temps. C'est-à-dire que dans ce que je dis dans mes livres est passé, ils ont un certain succès, d'accord, mais sur une somme de malentendus qui consiste à me fabriquer...
Oui, mais c'est parce que...
Donc je ne veux pas dire, c'est pas le moi, c'est pas le moi fabriqué par l'image qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est le moi réel, pas le moi profond, le moi le plus littéral.
Oui, mais je vous ai lu, je connais.
Le moi le plus terre à terre,
mais je comprends
le plus trivial, mais le plus constatable.
c'est parce que vous avez une conception de la littérature qui a été partagée par quelques très grands écrivains et qui consiste à faire d'abord de sa vie une œuvre d'art. Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle vous pouvez effectivement prendre au pied de la lettre votre carnet de vie pour en faire de la littérature à jet direct. D'une certaine façon, Flaubert procédait tout à fait à l'inverse. N'empêche que, et c'est ce que m'avait démontré l'édition des carnets sur laquelle j'avais travaillé 3 ans, quand il écrit dans ses carnets pour écrire dans un roman, ben c'est pareil. Il écrit tout de suite, direct, ce qui va passer dans le texte du roman. Parce qu'il, alors lui, il se met, je dirais, en scène. C'est souvent des carnets d'enquête, de documentation. Il fait exprès de ne pas faire toute sa recherche, toute sa documentation avant d'écrire son roman, pour pouvoir enquêter à chaud. C'est-à-dire, il est en train d'écrire tel passage de Madame Bovary ou tel passage de l'éducation sentimentale, et il est à Croisset, en Normandie, loin de tout, et il va s'obliger à prendre le train, la diligence, à aller à Paris, 3 jours, s'interrompre dans son travail, pour faire en fiacre le bout de chemin que son personnage doit faire à ce moment-là du récit, et il a une faculté de dépersonnalisation telle qu'il va noter sur son carnet direct ce que vit le personnage. Et c'est une sorte de mise en scène physiologique, hein, profonde quoi, de la fiction. Et il revient à Croisset, chargé de ça, et ce « ça » écrit passe directement. Mais là, notre Flaubert, il a fait à ce moment-là ce que notre Solaire essaie de faire de sa vie de chaque instant, j'imagine en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, bien entendu, on ne fait qu'écrire ce qu'on vit parce qu'on a fait de ce qu'on vit quelque chose comme de la littérature vivante.
C'est toute la question, parce que soit vous allez vous mettre dans la position du fait que vous avez affaire à un récit, que vous y introduisez un personnage imaginaire, et que pour bien vérifier les détails, il vous faut faire cette vie-là pendant quelque temps pour l'écrire. Soit, au contraire, et ça je dirais que c'est une des formes les plus prégnantes, les plus évidentes de toute une aliénation, je dirais, de la littérature du 19e et du 20e siècle, pendant une certaine...
Le sommet, d'ailleurs, de la critique génétique sur l'univers, c'est les carnets d'enquête de Zola. Enfin, qui est,
bon. Voilà. Donc nous sommes là en plein 19e siècle, et c'est ça le problème, je dirais. En revanche, vous pouvez très bien aussi faire ce blasphème anti-moderne, en quelque sorte, ou anti-postmoderne, ce blasphème pur, antisocial même, qui consisterait... parce qu'encore une fois, la doxa change. Ce qui n'était pas doxal par rapport à Flaubert ou à Baudelaire, tout peut devenir doxa, hein, ou préjugé. Y compris le contre Sainte-Beuve de Proust. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Donc, en revanche, on pourrait imaginer que vous n'écrirez qu'à partir du moment où votre vie vous aura saisi par hasard, ou à l'improviste, ou selon une certaine logique que vous essaierez d'éclaircir par la suite, et que vous écrirez dans un temps très proche, mais dans un temps parallèle, mais second. Ce n'est pas du tout la même position. Ça consiste à reposer la question aujourd'hui qui me paraît la plus subversive de toutes. Qui a une vie intéressante aujourd'hui ?
Mais oui, bien sûr.
Autrement dit, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui soupçonnez-vous d'avoir une vie complexe, passionnante, fascinante, étrange ?
Mais je vous dis, c'est vous.
Non, non. Non, mais c'est... Je crois que c'est une bonne question, car nous sommes sursaturés depuis très longtemps de gens qui écrivent, qui réfléchissent sur l'écriture, qui pensent la littérature aujourd'hui ou hier ou avant-hier, qui raisonnent, qui théorisent, etc. Ce qui n'était pas le geste, c'est pour ça qu'il peut paraître contradictoire chez moi, qui n'était pas le geste subversif des années 60 ou 70, quand nous nous occupions de foutre en l'air un certain académisme, une certaine convention sur la littérature. Et désormais, c'est doxal. Donc si j'étais tel qu'Elien aujourd'hui, je serais le contraire de ce que j'ai fait il y a 20 ans. C'est-à-dire, là, il faut suivre...
Donc c'est vous le tel qu'Elien aujourd'hui ?
Non, non, je ne dis pas ça du tout. Non, je ne dis pas ça du tout, au contraire. Au contraire, il y a, dans la proposition de critique génétique, un ferment de vie qui consiste à montrer contre le marché. Les livres sont préprogrammés, ils doivent être écrits en langage basique, donc pas écrits du tout. Il vise à montrer, au contraire, qu'écrire, c'est un phénomène extraordinairement complexe, vital, et donc profond, au sens où la société n'a plus du tout le temps de le reconnaître, puisqu'elle fabrique ses écrivains, en quelque sorte, in vitro, pour la diffusion immédiate. Non, mais je dis par là que la question de savoir qu'il y a une vie intéressante, ça ne se pose pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Les écrivains, tous presque, des vies complexes, ils voyagent, ils rencontrent des choses. C'est très vivant. Mais je dis que ce qui m'étonne, m'intrigue, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on ne sent pas derrière ce qui s'écrit des vies très intéressantes à vivre.
Ben oui, puis ça se ressent dans la littérature.
Mais je m'excuse, est-ce que vous pourriez préciser le rapport entre ce que vous dites et la Deuxième Guerre mondiale ? De façon générale, le rapport.
Je crois que le phénomène est typique de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
C'est-à-dire.
C'est pour ça que j'ai mis là mon premier placard traumatique, qui me paraît, en tant que traumatisme, tout à fait supérieur à tout traumatisme antérieur.
Par exemple, après tout, la guerre de 14 a été un trauma dont est sorti le surréalisme d'une certaine façon, et ça me semble. Bon.
Oui, mais rien de tel. Les gens, après la guerre de 14, d'ailleurs Proust s'en arrange très bien de la guerre de 14, il lui suffit de quelques ajouts à la recherche du temps perdu, et songer que cette heure, et ça, Biasi peut m'en donner un accord génétique sur cette heure. Je pense que Proust intègre parfaitement, c'est comme si la guerre de 14 ne changeait pas grand-chose à son récit. Il met Paris sans lumière, Charlus qui déambule sur les boulevards avec les permissionnaires, et hop, ça va, et puis les gens meurent à la guerre. Au contraire, la guerre de 14 est très bien avalée par la recherche du temps perdu. Je ne pense pas qu'il en aurait été de même. Enfin, ce sont des hypothèses par la Deuxième Guerre mondiale, qui est très différente.
Je m'excuse de revenir là-dessus. Quel est, selon vous, l'inavalable de la Seconde Guerre mondiale ? Je vous pose la question dans la mesure où, en apparence, votre œuvre ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, ou n'en parle très peu.
Ah, si, j'en parle.
Dans Portrait du joueur, les choses. Mais je veux dire.
Oui, j'en parle beaucoup, justement.
Mais bon, n'en parle pas au sens où, par exemple, l'œuvre de Pérec peut être surdéterminée par les camps, etc. Enfin, c'est en ce sens-là que je pose la question.
Justement, l'œuvre de Pérec me paraît surdéterminée sans qu'il en parle.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon. Moi, j'en parle. Oui, c'est aussi intéressant dans un cas que l'autre. Mais enfin, tout de même, en parler, c'est en parler. Ou bien on en parle, ou bien on n'en parle pas. Et comment ? Alors, vous pouvez, si vous voulez, examinons la littérature française depuis 40 ans et voyons comment elle en parle ou n'en parle pas, ou comment elle parle d'autre chose, ou comment elle exotise le phénomène, ou comment elle se débrouille avec quelque chose qui est là, on le sent très bien, en trou noir. Donc, je dis que la conscience même de la langue est atteinte, à partir de là, d'une dépossession, d'une crise d'identité à soi, qui d'ailleurs éclate aujourd'hui, enfin, sous une forme de lamento dégoulinant, on parle ou n'en parle pas, c'est ça le problème. Ou parle d'autre chose, ou invente une écriture blanche négative, ineffable, qui ne parle pas de ça. Donc là, il y a malheureusement ou heureusement, un seul écrivain qui, pour cette raison même, introduit un paradoxe gigantesque dans la littérature française.
Céline.
C'est évidemment Céline. Et ce serait étonnant que nous ne prononcions pas son nom et que nous nous en tenions à Flaubert ou Proust. Car pensez la littérature aujourd'hui, dites-vous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces intervalles de disparition brutale, qui touchent alors et qui ensuite s'accentuent. Je crois que le phénomène essentiel sur lequel je suis beaucoup revenu, c'est celui de la culpabilité, de l'ignorance, bien entendu, mais de la culpabilité, de la haine de soi, aussi, qui est très importante. La haine de soi n'est pas quelque chose qui habite fondamentalement l'œuvre de Flaubert ou de Proust. C'est la haine de l'autre.
Je crois que c'est ça. Parce que, à la question,
c'est la haine du bourgeois, c'est la haine du monde, c'est la haine du mensonge mondain. Mais ce n'est pas la haine de soi. Or, aujourd'hui, entre enfin je veux dire la majorité des textes que je suis amené à lire sont habités a priori par la haine de soi.
Et l'inavalable de 40.
Et la haine de sa tradition, et la haine de sa culture, et la volonté de n'en rien connaître le moins possible. Dans un processus évident d'autodestruction suicidaire par condamnation à mort, par la conscience morale disparue.
Alors, ça serait l'héritage de la Seconde Guerre mondiale que vous
Je crois que c'est un héritage. Non, oui, ça, c'est évidemment. La Bible dit qu'il faut 4, 5 ou 6 générations. C'est évidemment un résultat tout à fait explosif, c'est le moins qu'on puisse dire, de la période 40-44, sur laquelle on n'arrête pas de vous promener en témoignages, en récits, qui essayent de reconstruire, en documents, mais pas tellement en littérature. Sur la période de la guerre d'Algérie, j'insiste. Et enfin, je ne vais pas dire surtout, parce que tout est important, le traumatisme est d'un autre ordre, certainement sur ce qui s'est passé, qui est une révolution, c'est-à-dire celle de 68. Bon, parce que pour moi, c'est pas les événements, c'est une révolution. Tout le monde s'entend quand même à dire qu'il y a eu une révolution en 1848. Ça a eu l'air d'une révolution, c'en était une, personne ne l'a appelée autrement. La Commune de Paris, on l'a bien appelé ce que c'était, c'est-à-dire vraiment une insurrection visant à détruire l'appareil d'État. Mais 68 est une révolution. Mais personne ne semble vouloir que c'en ait été une.
En dessous de 10 000 morts, on ne parle jamais vraiment de révolution, quoi, c'est ça. Mais non, il y a cette énorme différence, mais moi je suis aussi convaincu qu'il s'agit, enfin, en tout cas, dans l'espace de ma vie, je l'ai vécu comme ça, et je crois que c'est effectivement une période qui est une facture.
Pour le coup, je vous ferai une objection flaubertienne, vous n'avez pas vécu ça dans l'espace de votre vie comme Frédéric Moreau, 48. Enfin,
non, mais étrangement, mon rapport à Flaubert...
Je dis ça parce que j'ai le sentiment, au contraire, que enfin, probablement beaucoup de gens qui ont traversé 68 ou vécu 68 de façon ou d'une autre se reconnaissent dans une réactualisation du flaubertisme, celui-là.
Non, il se trouve que par hasard, tout à fait par hasard, j'étais petit en 68, j'étais en terminale, et j'ai eu un prof de français assez génial qui nous avait fait étudier l'éducation sentimentale, et très bien, avec une sorte de génie qu'avaient les jeunes normaliens profs de l'époque, qui ne sont plus trop là maintenant. Et c'est vrai que pour moi, il y a une sorte d'alliance étrange, à vrai dire contradictoire, mais réelle, entre Flaubert et la direction du comité d'action lycéen que j'avais pris dans mon lycée à l'époque. Enfin bref, revenons pas sur ces...
Je propose d'arrêter le sujet.
Moi, je voulais revenir sur la notion de biographie et sur une question sérieuse. J'ai eu à faire un papier sur la biographie anglaise de Flaubert, de Lotman, qui n'est pas une mauvaise biographie, mais j'avais fait un papier plutôt acide, parce que... Pour moi,
Lotman a beaucoup écrit sur la période de la Seconde Guerre mondiale en France, dont Sommers parlait à l'instant. Enfin, je veux dire qu'il est l'un de ceux qui ont tourné.
Prenons-le comme un exemple de la biographie, je dirais, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire très scrupuleuse, très scientifique, pleine de détails, etc. L'objectif d'une telle biographie, normalement, c'est d'arriver à quelque chose d'aussi exact, d'aussi précis par rapport à la vie intéressante ou inintéressante de l'écrivain, qui est ce qui vous préoccupe. Or, ça tombe des mains, parce que on en ressort après avoir lu cette biographie, en sachant beaucoup de choses sur telle ou telle séance amoureuse de l'écrivain, mais c'est mal écrit, c'est mal foutu, c'est pas ça.
C'est très bon, là.
C'est tout. Et on sait tout un tas de choses sur ses voyages, sur ses boutons de culotte, sur tout ce que vous voulez, mais à la fin du bouquin, on sait pas du tout pourquoi le type était écrivain et pas marchand de chocolat. Bon, alors c'est très décevant, et on se dit qu'il faudrait arriver à faire cette biographie formidable. C'est un peu ce qu'on tente, nous, en génétique de l'écriture. Seulement, c'est un projet terrifiant. Cette biographie qui consisterait à raconter justement ce qui se passe dans la vie de l'écrivain quand il écrit, quand il est dans cette aventure folle, qui est l'écriture. Que cette écriture soit à jet direct ce qu'il est en train de vivre, ou que ce soit, je dirais, en différé, quelque chose qui est de l'ordre du renfermement dans un cabinet de travail et d'une sorte de macération, comme c'était le cas de Flaubert. Encore que, je vous dis, il y a aussi des points de contact entre réel et écriture chez Flaubert, beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Alors, ça veut dire Ça veut dire malgré tout qu'on ne peut pas dire de l'écriture de Solers ou du point de vue qu'il défend que ce soit une écriture biographique, même pas du tout. Parce que c'est quand même la façon dont c'est écrit, hein, le résultat d'un travail qui est celui de l'écriture, qui fait que c'est intéressant, après avoir été passionnant à vivre, hein, ou même passionnant à lire. Donc je ne crois pas qu'il y ait cette opposition dans notre débat. Parce que, au fond, vous vivez pour vivre, vous vivez pour écrire, vous écrivez pour vivre, et à travers cette dialectique-là, qui est celle qui constitue la vie comme une œuvre, et puis à partir de cette vie, la possibilité de la communiquer, de la rendre exemplaire, et puis aussi de l'offrir aux autres, il y a quelque chose qui ne remet pas du tout en cause le problème du travail de l'écriture, qui est complètement fondamental. S'il n'y avait pas ce travail, s'il n'y avait pas même un jet direct, hein, la rature, l'adjonction, la restructuration, l'idée qu'il faut mettre en scène tout ça à travers un geste qui est extrêmement sophistiqué, qui est celui du signe, de la phrase, du paragraphe, du flux verbal, etc., il n'y aurait pas du tout de raison qu'on se parle ce soir, par exemple.
Exactement. La question me semble être une certaine idéologie 19e-iste poursuivie, qui consiste à cléricaliser le rôle de l'écrivain. Au fond, c'est la constitution d'un clergé laïque qui va être en général célibataire, renfermé chez lui, s'interdisant la vie pour mieux se prêter à l'accomplissement de sa liturgie esthétique. Là-dessus, le livre de Sartre comporte des analyses fulgurantes, sauf sur un point qu'il n'a jamais réussi à écrire, c'est, après tout, pourquoi est-ce qu'il a écrit Emma Bovary, 4e tome qu'il n'a jamais écrit. Ça n'empêche que, quand on voit qu'en plein milieu du XXe siècle, quelqu'un comme Sartre est obligé de se redemander d'où vient ce projet national de cléricature laïque faisant de l'écrivain quelqu'un dont la vie a peu d'importance par rapport à l'accomplissement d'une œuvre, c'est étrange. Comme si la vie ne pouvait être que mensongère, un masque inutile, quelque chose qu'on peut rejeter, etc., du moment qu'il y a l'œuvre. Il y a là un très curieux divorce qui est idéologique. Au XVIIIe siècle, il n'en a rien été. Nous ne doutons pas une seconde que la vie de Sade correspond étroitement à son écriture, dont on voit qu'elle exacerbe des expériences qui ont eu réellement lieu. Je ne dis pas que Sade a passé son temps à découper en morceaux des petits garçons, des petites filles, des hommes, des femmes, etc. Mais nous suivons très bien que c'est bel et bien parce qu'il a eu cette vie-là, qui a donc été réprimée, qu'il a eu cette écriture-là. Qu'est-ce que c'est donc que d'avoir une vie réprimée?
Oui.
C'est-à-dire dans ses instincts, dans ses initiatives, dans sa façon de vivre le temps, l'espace, le désir, etc., etc. Qu'est-ce que ce c'est que d'avoir subi la répression parce qu'on voulait vivre d'une certaine façon? Je crois que ça mérite désormais re-réflexion et non pas quelle vie atrocement privée de tout, Flaubert rentrant d'Égypte après avoir eu son extase avec Kouchou Kanem, vit-il enfermé dans Croisset parce que tout simplement la société française est invivable.
Juste une question que je greffe sur votre réponse à Solers. Est-ce que vous pensez, je pense à ce que Solers disait de Sartre, et à ce que vous disiez vous-même de la médiocrité de la biographie d'Herbert Lottemann, est-ce que vous pensez que la critique génétique pourrait déboucher sur quelque chose comme un renouveau biographie
Si je peux ajouter.
Ou pas. Enfin, je veux dire,
je pense que oui. Par exemple.
Est-ce qu'au fond, c'est la réponse à la question de Sartre, que peut-on savoir d'un homme aujourd'hui qu'il pose à l'orée du.
Je pense tout à fait que la question posée par Biasi est essentielle, à savoir qu'il faudrait tenir compte non seulement de ce qui avait lieu, mais de la façon dont c'était réfracté par un geste d'écrivain en train de vivre un problème spécifique. De ce point de vue, la biographie, enfin, qui me paraît exemplaire, en tout cas pour le XXe siècle, c'est celle de. Finalement, c'est la bonne vieille Hellman pour Joyce, n'est-ce pas, qui est faite de telle façon qu'on sent très bien l'histoire tourner autour de Joyce, en même temps qu'il est en train d'inventer une forme qui va dire l'histoire d'une façon totalement inattendue. Car finalement, ce sera toujours ça un écrivain, c'est quelqu'un qui va nous donner la vérité historique sous une forme qui n'était ni dans les documents, ni dans les journaux, ni dans les analyses politiques, ni dans le blabla universel. C'est-à-dire que c'était comme ça que ça se passait. Donc, Proust, ben, oui, c'était comme ça. Joyce aussi. Donc là, Painter, c'est pas si mal finalement, encore qu'on n'y voit pas assez bien l'emprise et la tentative d'écriture de Proust. Mais tout de même, il y a des livres qui peuvent éventuellement s'écrire plus loin que ça, où on montrerait, je crois qu'Hellman est un début. Hein. Il y a une autre biographie, c'est pas un écrivain, si, c'est un grand écrivain quand même, c'est celle de Jones sur Freud. On sent très bien que le vivre et découvrir quelque chose, c'est la même chose, enfin, au moment où ça se passe.
Et si on va jusqu'au bout de cette idée, il est vrai que les brouillons, quand on les possède, fournissent évidemment une sorte de matériau fou, puisque ces micro-événements qui peuvent être considérables en fait dans l'histoire de la littérature, puisqu'ils produisent le texte, ils sont par milliers, et on peut en constituer la chronologie, je dirais presque minute par minute. Mais seulement, c'est terrifiant. J'ai essayé de le faire pour un manuscrit.
La première fois que vous me conseillez rencontré, je crois que vous m'avez confié que vous aviez même eu l'idée de faire un roman à partir de votre expérience de généticien. Mais pas une biographie, c'est pour ça que je posais la question.
Ça, à mon avis, ne peut pas du tout s'écrire comme une biographie, je dirais, à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, parce qu'il faut un minimum de fiction pour être comme par-dessus l'épaule de l'écrivain au moment où il est en train d'écrire. Il y a cette position qui est elle-même absolument non scientifique. C'est pour ça que je crois que ce que nous faisons est au moins autant de l'art que de la science, enfin, du moins j'espère, et parfaitement inutile probablement. Je l'espère aussi.
Je rappelle juste que texte de Barthes sur Solaire, enfin l'un des textes de Barthes sur Solaire s'appelait Par-dessus l'épaule, sur H.
Ah oui. Alors, simplement, le problème, c'est que si on le fait pour de bon, c'est-à-dire en ayant en main toutes les données, alors, c'est pratiquement interminable. C'est-à-dire que c'est tellement invraisemblable ce qui se passe en correction sur un folio. Et il y a, je dirais, peut-être 8 à 10 folios pour une page, que si on veut décrire tout ça, hein, parce qu'il y a des moments névralgiques où c'est véritablement formidable, incroyable à raconter. Alors, pour